De ta paix, de ton amour, oui, de ta tendresse. Combien cette tendresse nous fait du bien. Combien, Seigneur, tu veux nous serrer dans tes bras et nous dire que tu nous aimes. Oh, et nous voulons accepter cet amour toujours plus, afin de vivre pour toi, par amour pour toi, te suivre jusqu'au bout. Merci Seigneur pour ces instants que tu nous donnes encore de méditer ta parole. Ouvre notre esprit Seigneur pour que nous puissions bien saisir ce que tu veux nous dire. Tu as toujours quelque chose à nous dire ou à nous rappeler. Trouve en nous des cœurs dociles et obéissant à ta voix, afin que nous puissions toujours mieux te glorifier sur cette terre et que nos vies soient un sujet de joie pour toi. Tu connais nos besoins, Seigneur. Inspire encore cette méditation selon les besoins de chacun et que tout glorifie ton beau et saint nom. Amen. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous pouvons vraiment dire que le Seigneur nous a visités, n'est-ce pas vrai? Et il en est ainsi lorsque nous voulons le louer de tout notre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Ça, c'est bien vrai. Lorsque l'aspiration est profonde, sincère, Dieu n'est pas loin. Que son nom soit béni. Pour cette dernière méditation ensemble, toujours dans la pensée de Pentecôte, Nous allons méditer sur la puissance de Dieu et voir comment cette puissance agit. On appuie beaucoup sur la puissance de nos jours, n'est-ce pas vrai ? Mais dans un grand déséquilibre. Et c'est pourquoi, finalement, cette puissance ne peut pas vraiment se manifester, où il y a des dérapages, des débordements. Mais Dieu veut que la puissance qu'il nous a donnée par son esprit soit bien canalisée et que nous puissions la manifester d'une manière qui le glorifie et d'une manière qui sera une bénédiction aux autres, n'est-ce pas vrai ? Alors nous allons voir quelques pensées importantes. Le titre sera, si vous voulez, « L'équilibre, source de puissance spirituelle ». L'équilibre. Tout ce que Dieu fait est parfaitement harmonieux et équilibré, n'est-ce pas vrai ? Tout, dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit, tout est harmonieux. Tout est parfaitement harmonisé. Une chose complète l'autre. Une chose ne vient pas avant l'autre ou après l'autre. Tout est fait dans une pensée précise. Ce qui fait que la création tout entière est dans une harmonie parfaite. Et Dieu veut que sa créature aussi vive dans cette harmonie et que cette puissance qu'il nous a donnée se manifeste aussi dans cette harmonie et dans cet équilibre. L'équilibre est la source de puissance spirituelle. Nous allons voir 7 points importants concernant cet équilibre, toujours en rapport avec la puissance. Nous nous mettons toujours la puissance en avant, mais est-ce que Dieu, lui, fait les choses comme cela ? Est-ce que Dieu, lui, voit les choses comme cela ? L'homme est impressionné par la puissance, n'est-ce pas vrai ? Et il est prêt à faire toutes les bêtises pour avoir et manifester cette puissance. Mais Dieu voit les choses différemment. Dieu voit les choses dans un grand équilibre. Alors, premier point, premier équilibre concernant la puissance de Dieu, c'est Étienne qui va nous donner une vérité importante. Étienne, dans Actes 6, verset 8, Étienne, qui était le premier martyr de l'Église chrétienne, va nous donner une pensée importante. Actes 6, versets 7 et 8, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles ? Plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Vous voyez ici le mot puissance, mais il n'est pas seul. Le mot puissance est là, mais il n'est pas seul. Et il est équilibré par une autre qualité qui vient d'ailleurs avant, vous avez remarqué. Il n'est pas dit, nous on dirait aujourd'hui, Étienne plein de puissance et de grâce. Puissance en majuscule et grâce en minuscule. On ne voit plus rien. Qu'est-ce que c'est écrit derrière ? Je ne sais pas bien. Mais puissance, en noir. Ça, c'est l'homme, c'est le cœur de l'homme, n'est-ce pas vrai ? C'est le cœur de l'homme. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix sont au-dessus de nos voix. Premier équilibre. La grâce, c'est quoi ? Plein de grâce. C'était la compassion. On peut prendre un autre mot, la compassion et la puissance vont toujours ensemble. C'est là un équilibre que nous devons avoir pour permettre à la puissance de Dieu de se manifester. La compassion et la puissance, voilà l'équilibre. La clé du ministère de Jésus, la clé de la puissance de Jésus, c'était quoi? Sa compassion. Je répète, la clé de la puissance de Jésus, c'était sa compassion. Combien de fois nous le voyons, Jésus, ému de compassion, guérit les malades. Voyez-vous, la compassion vient avant. La grâce, la compassion, l'amour pour les autres. Cette puissance n'est jamais là pour nous vanter, pour nous montrer toutes ces choses humaines, charnelles. Mais cette puissance est toujours pour bénir l'autre. Amen. Alors, premier équilibre, si tu veux, si je veux manifester la puissance de Dieu dans ma vie de tous les jours, et cette puissance se manifeste de différentes façons, n'est-ce pas? Dieu est grand même dans les petites choses qu'il fait. Nous nous attendons toujours de voir de grandes, grandes choses. Mais parfois, Dieu est grand, même dans les petites choses. Et c'est dans les petites choses, d'ailleurs, qu'il révèle sa grandeur. Quand il nous touche dans tel ou tel détail, qu'il prend soin de nous dans les moindres petites choses, notre première réaction, que tu es grand, Seigneur. Un homme ne s'occuperait pas de cela. C'est trop insignifiant. Il faut être Dieu pour s'arrêter aux détails. Amen. Il faut être Dieu. Alors, premier équilibre, nous qui désirons tous manifester la puissance de Dieu, et c'est normal. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, vous serez mes témoins. C'est le désir de Dieu, mais il faut le faire comme Dieu, selon les moyens de Dieu, et selon les règles divines. Et cette pensée que je vous donne là de la compassion, voilà pourquoi l'œuvre que le Seigneur nous a confiée s'appelle compassion. À un moment donné, on voyageait beaucoup dans les églises ici en France, en Belgique, en Suisse. Nous avons tenu beaucoup de campagnes d'évangélisation où on priait pendant des heures pour les malades. Et c'est là, pendant ces tournées, que le Seigneur nous a mis à cœur et nous a montré que si nous voulons vraiment manifester sa puissance, cette puissance ne peut se manifester que par le canal de la compassion. Que Dieu ne pourrait pas nous utiliser s'il n'y avait pas de compassion dans notre cœur à l'égard des malades pour lesquels nous allions prier. Et c'est là une vérité que nous avons beaucoup pris à cœur. C'est pourquoi l'œuvre s'appelle compassion. On n'est pas encore des experts, loin de là, loin de là. Mais c'est un but, c'est un objectif. C'est notre but, grandir toujours plus. Et j'ai remarqué que plus on grandit dans la compassion, plus la puissance de Dieu se manifeste. Une vérité toute simple. Veux-tu que la puissance de Dieu se manifeste plus dans ta vie? Manifeste plus de compassion. Manifestons plus de compassion dans tout ce qu'on fait. Pas seulement lorsqu'on prêche. Dites, mais moi, je ne suis pas appelé à prêcher. Alors, qu'est-ce qui me reste, moi? Dans mon petit coin, moi, il ne me reste pas grand-chose. Si, là où tu es, dans les moindres activités de tous les jours, quotidiennes, manifeste plus de compassion. Sors de la routine. Sors de cet activisme où on fait beaucoup de choses. On fait, on fait, on fait. Mais le cœur ne vibre plus, n'est-ce pas vrai? Et après, on est étonné qu'il n'y a pas les résultats qu'on voudrait. On fait beaucoup de choses, mais la compassion n'est pas là. Et avez-vous remarqué que quand la compassion n'est pas là, tout est sec, n'est-ce pas vrai? Tout est stérile. Nous sommes déçus, nous sommes tristes. Mais le Seigneur nous donne une pensée importante à chacun d'entre nous, moi le premier. L'équilibre est celui-ci. Si je veux plus de puissance, je dois manifester plus de compassion. Et vous serez étonné comme le Seigneur vous utilisera dans les moindres choses, et peut-être dans des grandes choses, selon les plans de Dieu, ça c'est son affaire. Mais si nous sommes fidèles dans les petites choses, il nous confiera des grandes, n'est-ce pas vrai? Il y en a qui veulent sauter à pieds joints, les petites choses ça ne les intéresse pas, ils veulent tout de suite le grand ministère, la grande puissance. Dès le début de leur ministère, ils veulent déjà les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, à peine convertis, ils veulent déjà tout ça. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous en confiera des plus grands. Écoutez-moi bien, mes amis, c'est important. Étienne, plein de grâce et de puissance. Que c'est beau, n'est-ce pas l'équilibre là? Je trouve que c'est beau. Si c'était seulement marqué plein de puissance, faisait des miracles. Mais Dieu, non, plein de grâce et de puissance. On voit donc un homme qui est là, qui priait pour les malades, qui était ému de compassion pour ceux que le Seigneur lui donnait. Il était touché, il se mettait à leur place. Quelque chose qui vibrait en lui, quelque chose qui vibrait. Les problèmes des autres étaient ses problèmes, les souffrances des autres étaient là en lui. La parole de Dieu nous dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui... pleure. C'est cela la compassion divine. Alors, un premier équilibre pour que la puissance de Dieu se manifeste. Le Seigneur veut que nous manifestions plus de compassion. Sortons de cette routine. Si nous faisons quelque chose pour le Seigneur, disons-lui, Seigneur, je veux faire cela vraiment par compassion. Je veux aimer la personne vers qui tu m'envoies. Et aimer, cela ne veut pas dire que vous cacherez la vérité, au contraire. Plus vous aimez, d'ailleurs, plus vous direz la vérité. Mais vous direz la vérité dans l'amour. Mais la compassion est là. Et en cela, nous devons veiller. Et là, continuellement, moi-même, quand on a ces grandes réunions et tout, vous savez, on ne peut pas se présenter comme cela, devant la foule. Quand on voit le... comme on a vu hier soir Dieu agir, on pourrait penser, mais ça se fait facilement. Non, il y a un prix à payer, mes amis. Nous passons toute la journée dans la prière, dans la méditation, à préparer notre cœur, à purifier notre cœur de ce que, telle sorte qu'il n'y ait rien du tout qui puisse l'attrister et que nous soyons pleins d'amour pour ceux que le Seigneur nous donne. C'est vital. Ce sont des vérités toutes simples que je vous dis. Et bien souvent, nous sautons par-dessus. Nous sommes obsédés par la puissance. Et nous ignorons, et nous voulons ignorer que cette puissance passe par le canal de la compassion. Tu en as certainement fait l'expérience déjà. Mais manifestons plus de compassion. Et nous verrons plus de puissance de Dieu dans notre vie. Amen. C'est là un point important. Deuxième équilibre, nous trouvons cela dans Matthieu 11, 20. Matthieu 11, 20, le deuxième équilibre est celui-ci, sainteté et puissance. La puissance de Dieu se manifeste lorsqu'un esprit de sainteté est là aussi. Matthieu 11, 20. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ses miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Nous voyons là que le Seigneur n'était pas content. Il a fait des miracles par compassion. Il a apporté la bénédiction. Mais il n'était pas content. Pourquoi? Parce qu'avec cette puissance qui a été manifestée, il n'y avait pas la reconnaissance et il n'y avait pas la repentance, le changement de vie. Et voyez-vous, la puissance de Dieu ne se manifeste pas pour en mettre plein la vue. La puissance de Dieu se manifeste pour changer nos vies, pour guérir nos corps. Mais si Dieu guérit nos corps, c'est en vue de toucher nos cœurs et de les transformer à son image. Voyez-vous un autre équilibre concernant la puissance? Cette puissance se manifestera encore plus si nous voulons changer de vie. C'est une puissance pour nous changer et non pas pour faire là un spectacle. Parce qu'elles ne s'étaient pas repenties, il leur fit des reproches. Voilà donc un deuxième équilibre. Sa puissance est manifestée, mais il n'y a pas eu de changement de vie, pas de repentance. Les gens ont vécu la puissance de Dieu, ils ont été guéris et tout ça, et il n'y a rien à changer. Bien sûr, les miracles du Seigneur étaient un cadeau. C'était gratuit, ils n'attendaient rien. Parce qu'il donnait gratuitement. Mais il a été attristé. Il n'attendait rien, mais il était attristé. Parce qu'il attendait qu'un remerciement. Et ce remerciement, c'était « Seigneur, tu nous as bénis, tu nous as guéris, tu as fait de grands miracles. Nous voulons nous repentir et changer de vie. » Voyez-vous, la puissance de Dieu a pour but de changer nos vies. Si ce n'était pas ça, ce verset n'a aucun lieu, d'être là. La puissance de Dieu s'est manifestée, alléluia, amen, terminé. Est-ce que c'est une fin en soi, la puissance de Dieu? Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de tomber dans ce travers. Et faire de la puissance de Dieu une fin en soi? Non. Sainteté et puissance vont toujours ensemble. Amen. Il leur fit des reproches parce qu'ils ne se sont pas repentis. Ils ont été bénis. Ils n'étaient pas en ordre avec Dieu. Il y avait des choses qui le déshonoraient. Et cette grâce qui est venue sur eux devait les pousser à changer. Quand Dieu agit dans nos vies, c'est toujours dans le but de lui dire, « Seigneur, tu m'as béni, tu m'as touché, tu m'as accordé des grâces. » Mais ce n'est pas pour rester tel que je suis, c'est pour te ressembler davantage. Il y a ceci, Seigneur, qui te déplaît, je veux l'abandonner. Je veux marcher dans la sainteté devant toi. Ça, c'est un point important. Nous, nous n'y prenons pas garde, mais Jésus, lui, y prend garde. L'homme passe par-dessus ces choses, mais Jésus, Seigneur, tu m'as béni, tu m'as rempli. Et simplement pour dire cela et passer un bon moment, si nous croyons cela, nous sommes à côté de la volonté parfaite de Dieu. Il nous a bénis, il nous a remplis. Toujours dans le but de nous amener toujours plus près de lui, d'abandonner ce qui lui déplaît. Et de lui dire, me voici, Seigneur, je t'abandonne ceci, cela, je veux te ressembler davantage. Puissance et sainteté vont toujours de pair, mes amis. Un moteur propre est un moteur puissant. Amen. Un moteur propre est un moteur puissant. Un moteur encrassé perd presque toute sa puissance, n'est-ce pas vrai? Soyons donc dans cet esprit-là. Sa puissance se manifeste, mais Dieu a un but. Changer, transformer. Nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Beaucoup d'entre nous, nous oublions cela. Tout ce que sa puissance manifeste à notre égard a un but. Lui ressembler, être semblable au Seigneur. Bien sûr, il nous faudra toute l'éternité pour cela, mais nous devons tendre à cela. Amen. Veux-tu plus de puissance? Alors marche dans plus de sainteté. Les deux vont ensemble. Si la sainteté n'est pas là, tôt ou tard, cette puissance s'arrêtera. où cette puissance sera paralysée, polluée, polluée. Il y aura un mélange, et c'est là que tous les dangers et que tous les pièges nous guettent. Que le Seigneur nous donne d'avoir cet équilibre, sainteté et puissance, compassion et puissance. Une troisième vérité, un troisième équilibre, dans Marc 16, un passage que nous connaissons tous bien, Marc 16, le troisième équilibre, vérité et puissance. La vérité et la puissance travaillent toujours ensemble. Les derniers versets que nous connaissons tous bien, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alors voyez-vous ici, le Seigneur confirme par des miracles quoi ? La parole, la vérité. Et c'est quand cette vérité de la parole était prêchée que la puissance de Dieu se manifestait. Amen. Donc là encore, un troisième équilibre. Si je veux que la puissance de Dieu se manifeste, si je veux que Dieu confirme ce que je fais, il faut que ce que je fais soit conforme à sa parole. Il faut que ce soit la vérité. Non pas mes idées ou les idées d'un autre. Essayer d'imiter quelqu'un ou je ne sais qui, ce n'est pas comme cela que ça marche. Le Seigneur n'a les yeux que sur la vérité. Et le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole. Ça aussi, c'est une parole que je serre sur mon cœur. Chaque fois que nous partons en mission, Seigneur, nous allons prêcher ta parole. Merci de la confirmer. Et nous avons remarqué une chose, Dieu est fidèle. Il la confirme. Amen. Il la confirme. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Veillons sur ce que nous disons, sur ce que nous prêchons. Si nous voulons que Dieu confirme, il ne confirmera pas n'importe quoi. Pas tes idées, ni mes idées, ni les dernières expériences à la mode. Tout cela n'a rien à voir avec Dieu. Il confirme sa parole. Prêchons la parole. Soyons fidèles. Continuons d'être vrais avec le Seigneur, d'être vrais avec sa parole. Et le Seigneur appuiera notre témoignage par sa puissance, d'une manière ou d'une autre. Vérité et puissance vont ensemble. La puissance de Dieu n'est jamais là pour confirmer l'erreur, les déviations doctrinales. Jamais, ou nos idées personnelles, ou nos expériences. La puissance de Dieu n'est pas là pour confirmer toutes ces choses. Que je suis un grand apôtre ou un grand prophète, et tout cela, ça n'a rien à voir. La parole, la puissance de Dieu est là pour confirmer sa parole. Sa parole. Et si vous apportez sa parole, n'importe lequel d'entre nous, s'il apporte la parole fidèlement, Dieu la confirmera, d'une manière ou d'une autre. Il montrera qui sera là. Bien sûr, chacun son ministère. On ne peut pas imiter le ministère de quelqu'un. Mais le Seigneur, lui, il sera là pour dire, c'est bien, il confirmera d'une manière ou d'une autre la parole qui est annoncée avec fidélité. Ce que je désire, plus de puissance, cette puissance passe au travers du canal de la vérité. Ah bon ? Ah c'est ça ? Bon alors maintenant, je vais prêcher la vérité alors. Mais oui, il est temps que tu le fasses. Et vérifie toujours tout ce que tu entends, tout ce que tu lis, si c'est bien la vérité. Vérité et puissance, les deux vont ensemble. Ah, mais moi... Même quand il n'y a pas de vérité, il y a de la puissance. Bizarre, ça. C'est bizarre. Ça, c'est une nouvelle révélation. Ça. Ah, tiens. C'est que maintenant, on vit des choses. Je vous dis bien, vous allez voir des choses encore étonnantes. Vous allez voir des gens, des ministères qui manifestent la puissance de Dieu là où il n'y a pas la vérité. Alors vous allez dire, c'est toi, alors je ne comprends plus rien. C'est tout simple. Dieu ne confirme jamais le mensonge, l'erreur et les fausses doctrines. Si une puissance se manifeste, ce n'est pas celle de Dieu. C'est tout simple. Que ça marche ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus rien du tout ? Ce serait la porte ouverte à toutes les séductions, n'est-ce pas vrai ? Mais c'est la vérité qui nous protège de toutes les séductions.
Amen. Amen.
C'est la vérité. Seule la vérité nous protégera, mes amis. Et nul n'est à l'abri. Nous devons tous veiller. Et si nous veillons sur la parole, la vérité, dans notre vie tous les jours, dans notre témoignage ou dans notre prédication, Dieu la confirmera d'une manière ou d'une autre. Pas toujours comme on le veut, mais comme il le veut lui. Il le fera. Il ouvrira la porte au bon moment. Il fermera la porte au bon moment. Même fermer la porte, c'est un exaucement du ciel. Nous, on pense que c'est seulement les portes ouvertes qui sont des exaucements. Parfois, une porte fermée, c'est aussi un exaucement. C'est aussi un exaucement. Mais quand Dieu ferme une porte, il en ouvre toujours une autre. Ne te fais pas de soucis. Sois fidèle, tout simplement. Mais ne défonce pas les portes fermées, surtout. Tu vas te casser la tête. Tu vas avoir des bosses partout. Il y a des chrétiens qui ont beaucoup de bosses sur les têtes. Boum, boum, Seigneur, pourquoi ? Ne te casse pas la tête. Pourquoi tu essaies de défoncer des portes fermées ? Si c'est fermé, ne cherche pas à devancer le temps. Ne cherche pas à provoquer les choses. Fais ce que Dieu te demande maintenant et tu verras, au bon moment, Dieu ouvrira la porte qu'il veut pour toi et non pas celle que tu veux pour toi-même. Allons un peu plus loin. On en est où ? Combien ?
Quatre.
Qui est-ce qui a dit trois ? Ah, on arrive au quatrième. Tu as raison. Alors, quatrième. Ah non, oui. Oui, quatrième maintenant, c'est ça. Quatrième équilibre, puissance et humilité. Un quatrième équilibre, puissance et humilité. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas aux hommes. Voyez-vous ici, Paul dit bien, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance ne soit pas attribuée aux hommes, mais à Dieu. La puissance de Dieu est là, mais elle ne peut se manifester qu'à travers des vases de terre, que nous devons réaliser que nous sommes. Autrement dit, avoir cet esprit d'humilité pour que Dieu puisse se manifester toujours plus dans notre vie. Amen. Notre vérité toute simple. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas expérimenter la puissance de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils sont trop orgueilleux. Et s'ils expérimentent la puissance de Dieu quand ils sont orgueilleux, cela risque de leur coûter très cher. Parce que l'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Et là, un point très important. Si nous voulons que Dieu nous utilise, que sa puissance se manifeste, il faut qu'il trouve en nous des vases de terre, qu'on réalise qu'on est des vases de terre. Que nous réalisions que nous ne sommes rien par nous-mêmes. Cette puissance n'est pas attribuée à nous, mais à Dieu. Elle vient de Dieu, elle doit retourner à Dieu. Nous pouvons passer par-dessus ces choses, mes amis, et penser que c'est insignifiant, mais pas pour Dieu, laissez-moi vous dire, pas pour Dieu. Et Dieu veille sur ces choses-là. Si nous voulons plus de puissance, il faut maintenant plus d'humilité. Amen. Plus d'humilité. Car c'est celui qui s'abaisse qui sera élevé. Sachons lui donner toute la gloire quand Dieu fait quelque chose. Beaucoup de chrétiens ou de ministères, de pasteurs ont perdu leur ministère parce qu'ils n'ont pas su donner la gloire à Dieu. Ça, c'est valable pour tout le monde, à commencer par les prédicateurs. Et le chrétien aussi. Si nous ne veillons pas jalousement à cela, Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme, ni son honneur aux idoles, jamais, jamais. Nous devons donc veiller jalousement à cela, purifier constamment les motivations profondes de notre cœur. Pourquoi est-ce que je veux que cette puissance se manifeste? Est-ce que c'est pour me faire un nom? Pour que je sois connu un peu de partout, qu'on entende parler de moi, pour que les autres disent, bon, ça c'est une chrétienne, ça, un chrétien comme ça, un ministère, vous vous rendez compte. Est-ce qu'au fond de nous-mêmes, nous caressons de telles pensées? Nous pouvons les avoir parfois, mais il faut tout de suite les rejeter. Et lui dira, arrière de moi, Satan. Je ne veux rien pour moi-même, mais tout pour mon Sauveur. L'humilité, mes amis, c'est une qualité qui disparaît beaucoup. Et surtout parmi les serviteurs de Dieu. Dès que quelques-uns ont quelques dons, quelques qualifications, vous ne pouvez même plus leur parler. Veillons à tout cela. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance ne soit pas attribuée à nous, mais à Dieu. Veillons à donner jalousement toute la gloire à Dieu. Veillons, veillons, veillons. Si nous voulons garder sa puissance, devons veiller à rester humbles continuellement et à lui donner toute la gloire. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui soient prêts à lui donner toute la gloire. Toute la gloire. Et Dieu utilisera ces personnes-là parce qu'il sait qu'ils ne prendront rien pour eux-mêmes. Mais ils donneront toujours toute la gloire à Dieu. Dieu veut bénir et utiliser ces personnes et donner même encore plus de puissance pour que Dieu soit glorifié et que les âmes, les captifs soient délivrés. Cinquième équilibre. 2 Corinthiens 4. Oui, c'est la suite, versets 8 à 12. Cette fois, c'est la croix et la puissance vont toujours ensemble. La croix et la puissance. 2 Corinthiens 4. Tout à l'heure, on a lu le verset 7, mais versets 8 à 12 maintenant. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, verset 12, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Quel équilibre! Voilà l'équilibre. La vie, la puissance peut agir dans les autres, dans la mesure où la mort agit en nous. Qu'est-ce que cette mort? C'est l'esprit de la croix, c'est le renoncement, c'est s'oublier soi-même, c'est accepter de se sacrifier, c'est le message de la croix, c'est non plus faire sa volonté, mais faire la volonté du Seigneur. C'est accepter de renoncer. pour que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est accepter d'être mis totalement de côté pour que Dieu seul soit vu et exalté, lui seul. Alors, lorsque l'homme est mis de côté, quelle place libérée pour la puissance de Dieu dans la vie de cette personne. Alléluia! Ce qui fait obstacle à la puissance de Dieu, c'est l'homme, c'est le moi, c'est l'égoïsme. Nous voulons paraître. Et voilà pourquoi Jésus ne peut pas paraître. Mais il faut qu'il croisse et que je diminue. Et dans la mesure où j'accepte l'esprit de la croix, le message de la croix, où j'accepte d'être mis de côté, l'esprit de Dieu agira. La mort agit en moi, en nous, et la vie agit en vous. Nous, on veut que la vie agisse en vous, mais on ne veut pas que la mort agisse en nous. Ça ne marche pas. On en est où? Sixième équilibre. 2 Corinthiens 12, 10. Un autre équilibre merveilleux en rapport avec la puissance. C'est puissance et faiblesse vont toujours ensemble. 2 Corinthiens 12, 10. Verset 9 déjà, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses pour Christ, car quand je suis fort, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Donc sa puissance, au verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Regardez ici. Ce merveilleux équilibre. Sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. C'est quand nous réalisons que nous sommes vraiment rien du tout, que Dieu peut vraiment nous utiliser. Beaucoup de chrétiens disent, mais moi je suis trop faible pour que Dieu m'utilise. Mais je n'étais jamais assez faible, c'est justement la bonne personne qu'il faut. Ah, mais moi je ne sais pas si Dieu pourra m'utiliser, je suis si faible. Mais c'est les faibles qu'il cherche. Mais t'es justement la bonne personne. La personne pense que, justement, parce qu'elle est trop faible, Dieu ne peut pas la bénir. Mais c'est justement ça. Des gens qui se sentent faibles et qui crient à Dieu et qui s'attendent au Seigneur. Sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse afin que toute la gloire revienne à Dieu. Alors voyez-vous, personne ici n'est excusé. On croit tous qu'on est des faibles, n'est-ce pas? Alors ne dis plus, ça, cet argument-là ne tient plus devant le Seigneur. Seigneur, je suis faible, je suis faible. Tu ne peux pas m'utiliser parce que je suis trop faible. Non, non, ça ne marche plus, cet argument. Le Seigneur va te dire, mais c'est justement ça que je veux. C'est ça que je veux. Alors tu es justement bien pour m'utiliser. Tu es la personne que je veux. Comment, Seigneur, tu veux m'utiliser? Tu veux? Oui. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est dans cet esprit-là que nous pouvons, de faiblesse, que nous pouvons dépendre de Dieu, crier à Dieu. C'est quand nous sommes faibles que nous prions comme nous n'avons jamais prié, n'est-ce pas vrai? Nous prions comme nous n'avons jamais prié. Nous parlons comme nous n'avons jamais parlé. Nous dépendons du Seigneur comme nous n'avons jamais fait. Nous soupirons après lui. Nous dépendons de lui comme nous ne l'avons jamais fait. Mais c'est cela que Dieu veut. La puissance du Seigneur se manifeste au travers du canal de la faiblesse. Et je termine. Septième équilibre. Le mot puissance est en rapport avec l'évangile. Puissance et évangile vont ensemble. Romains 1, 16. Vous connaissez ce verset? Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est quoi? C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Regardez le rapport ici. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance. Où est la puissance? Dans l'évangile. Si je prêche l'évangile, la puissance de Dieu se manifestera. Mais l'évangile, pas mes idées, pas les idées de quelqu'un d'autre. L'évangile, la bonne nouvelle. Amen. L'évangile, apporter aux autres la bénédiction du Seigneur, vouloir l'apporter. C'est là que nous voyons Dieu à l'œuvre. C'est lorsque je suis sur le chemin de l'annonce, de la bonne nouvelle, de l'évangile, que Dieu m'aide, que sa puissance me tient, me soutient, me porte et me transporte. Mais si je veux cette puissance sans porter l'évangile, à quoi elle sert? C'est ce qu'on voit un peu aujourd'hui. Il y a de la puissance, mais il n'y a pas d'évangile, il n'y a rien. Il n'y a pas d'âmes qui sont sauvées, il n'y a rien du tout. C'est tout pour soi. La puissance n'est pas pour nous-mêmes. La puissance est pour sauver les âmes. Porter la bonne nouvelle. Et non pas pour dire, voilà, j'ai fait telle ou telle expérience. Toi, tu ne l'as pas fait, tu ne vois rien du tout. Il y a un péché dans ta vie. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mes frères et sœurs, la puissance est où dans l'évangile? Et l'évangile, c'est quoi? C'est annoncer la bonne nouvelle. Ayons cet amour pour les âmes. Ayons faim et soif de prêcher sa bonne nouvelle, d'aider ceux qui prêchent aussi, d'être là pour aider ceux qui le font. Et nous verrons ensemble la manifestation de la puissance de Dieu, non pas pour nous faire un nom, mais pour glorifier le Seigneur et pour que des âmes passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, et reçoivent dans le nom de Jésus l'héritage avec les sanctifiés, le pardon de Dieu, la vie éternelle. Alléluia! L'équilibre, source de puissance spirituelle. C'est quand il y a l'équilibre qu'il y a la puissance. Amen. Que le Seigneur nous donne d'avoir cet équilibre et de joindre à la puissance toutes ces qualités qu'on vient de mentionner. Et Dieu confirmera sa parole dans nos vies et par nos vies, comme il le voudra, quand il le voudra. Il est fidèle, et juste, et compatissant. Espérons en lui, attachons-nous à lui, et donnons-lui toujours, 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 toute la gloire. Amen. Prions quelques instants. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta parole qui est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Merci pour cet équilibre qui était en toi, en Étienne, en Paul, en Pierre, en Jean. Tous ceux que tu as utilisés. Ô Seigneur, trouve en moi cet équilibre en chacun de mes frères et sœurs, afin que tu puisses te manifester dans nos vies et par nos vies. Que nous puissions un jour nous présenter devant toi, non pas les mains vides, mais avec un bouquet d'amour pour toi. Tout ce que tu auras fait dans nos vies et par nos vies, que nous puissions te le présenter. Ô Seigneur, nous voici pour te glorifier. Amen. Étienne, plein de grâce et de puissance, puissions-nous, Seigneur, avoir cet équilibre, Amen. Afin que tu puisses être réjoui en nous et que nous puissions réjouir tous ceux vers lesquels tu nous enverras. Amen. Et à ton nom seul soit la gloire, dès maintenant et à jamais. Amen. Mm.